Chers amis, bonjour. Bienvenue sur le podcast Petit Sous, Gros Sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Mes chers amis, vous comme moi, on n'arrête pas d'être tiraillé entre conviction religieuse, foi et un système bancaire conventionnel qui a fait ses preuves à l'opposé de nos propres éthiques, de nos propres convictions et de nos propres choix de vie. On ne peut plus ignorer les dérives de la finance actuelle qui a causé de nombreuses crises financières et qui entrevoit d'autres futures crises financières. On ne peut pas non plus jeter le bain et le bébé sur plus de 50 ans de croissance des marchés financiers. Presque un demi-siècle et très grande crise, la bourse démontre qu'il reste un relais de croissance et un levier pour démultiplier son patrimoine financier. La finance islamique, avec ses vertus anti-crise, peine à s'imposer comme la solution antisystémique mondiale. Londres, Kuala Lumpur, les Émirats et les pays du Golfe Persique, malgré une accélération de ces dernières années, il n'est pas facile de trouver dans un coin de rue de tomber sur une banque islamique en France ou en Europe. À l'aune des magazines de la presse sensationnelle, les produits de finance islamique restent des denrées très rares ou une trouvaille d'initiés. À l'ère du digital, en tant que musulman, peut-on basculer en banque islamique? Mes chers amis, ce qu'il faut imaginer, c'est que un établissement bancaire dans notre coin de rue, ce n'est pas juste de l'immobilier avec des gens qui travaillent dedans, avec une informatique. Mais c'est avant tout une infrastructure et avant tout un système financier derrière qui soutient toute la colonne vertébrale. Donc c'est un système qui a permis justement de proposer à vous et à moi ou aux entreprises des moyens, un système et tout un écosystème pour nous permettre en fait de réaliser des transactions financières. La grande question que j'ai envie de vous poser et de me la poser aussi, est-ce que il est possible de switcher d'une banque conventionnelle à une banque islamique? Alors, regardons les choses sur 5 à 6 points. Prenons par exemple la banque au quotidien. Donc au jour le jour, qu'est-ce qu'il nous faut? On a besoin d'avoir une carte ou des cartes, d'avoir des moyens de paiement, un chéquier, pouvoir faire des virements, une application, des distributeurs, des établissements dans un coin de rue. On a besoin aussi d'avoir en face des conseillers, que ce soit physique ou des conseillers à distance, pour nous renseigner, une application, des sites internet, mais aussi de pouvoir trouver aussi des billets, des pièces de monnaie, de pouvoir les échanger. Donc, dans notre quotidien, oui, bien sûr, il est possible de se dire, voilà, je vais adhérer ou je vais souscrire à des moyens de paiement, à des cartes. Et aujourd'hui, il y a des acteurs qui proposent, par exemple, une carte qui est compatible avec la charia, qui est compatible en fait avec les préceptes en fait de l'islam. Donc pour notre quotidien, aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin d'une banque pour avoir une carte. Même en allant au supermarché, on peut trouver une banque. Donc sur cette partie-là, donc de la banque au quotidien, du quotidien, les moyens de paiement, les cartes et tout ce qui permet en fait de faciliter les transactions financières du quotidien, oui, il est possible de switcher. Maintenant, venons-en dans un autre domaine qui est le financement. Donc aujourd'hui, on a besoin de financer une maison, on a besoin de financer des projets, on a besoin de financer l'achat d'un véhicule ou de tout autre équipement comme la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, par exemple, l'achat immobilier est en partie vrai. On peut switcher, on peut aller voir un organisme de banque islamique, un organisme qui finance les particuliers dans l'acquisition de la résidence principale ou dans l'acquisition d'un immeuble ou d'un studio qui serait mis en location. Donc, cela est en partie vrai. Mais sachez que les organismes qui accompagnent les particuliers dans l'immobilier, ce sont des organismes qui sont sur un marché de niche et des organismes très sur le volet. Donc, il n'est pas permis à tout le monde de pouvoir bénéficier de ce type de financement. Donc, sur la partie immobilière, oui, avec quelques astérix. Mais sinon, si on prend d'autres domaines comme l'achat d'un véhicule ou l'achat d'un équipement de cuisine, eh ben, tout ce qu'on avait vu dans l'épisode sur l'argent, la finance islamique et moi, en France, il n'y a qu'un seul établissement qui a l'agrément et qui opère comme banque islamique. Et je n'en connais pas en fait les conditions, mais aujourd'hui, on va dire que quand on est un particulier lambda, on a besoin d'acheter une cuisine, on a besoin d'acheter un véhicule, on n'a pas en face de nous, à côté de notre lieu de travail, à côté de notre entreprise, un établissement capable de nous proposer un financement pour des projets du quotidien. Donc, sur cette partie-là, je dirais c'est presque impossible. Ce n'est pas facile dans le financement du quotidien de trouver un organisme qui propose cela. Aujourd'hui, on a tous l'habitude de fractionner nos paiements, d'acheter en ligne, d'acheter sur Internet. Eh bien, j'en connais pas d'organisme qui propose aujourd'hui des paiements fractionnés sur Internet. Maintenant, revenons-en à l'épargne. Donc aujourd'hui, quand on veut épargner, donc on a deux types d'épargne. C'est l'épargne de précaution, donc où on a besoin d'avoir de l'argent frais tout de suite en fait en cas de besoin. Et on va parler de l'épargne de projet ou l'épargne qui est placée. Parce qu'il faut voir, c'est que l'épargne qui est placée, l'épargne en fait, qui nous permet de réaliser des projets du quotidien, j'en connais pas de tête comme ça. Donc tout le monde a entendu parler des soukouks, mais les soukouks ne sont pas réservés peut-être à une clientèle populaire basique. Il faut s'y connaître parce que ce sont des produits qui ne sont pas liquides, qui ont besoin d'avoir une certaine expérience et une certaine connaissance parce que les fonds sont bloqués pendant un certain temps. Il existe bien sûr des assurances vie luxembourgeois ou des produits orientés en fait vers de l'épargne de long terme, mais ces produits-là, il faut un certain ticket en fait, il faut avoir un certain montant pour y accéder. Donc aujourd'hui, l'épargne bancaire ou l'épargne tout simplement une épargne financière, j'ai l'impression que c'est réservé en fait à une élite en fait. Le monsieur de tout le monde, madame tout le monde, ne peut pas y accéder. Donc comment faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, si j'ai de l'argent, est-ce que je suis obligé, moi, parce que au nom de mes convictions, de faire dormir mes liquidités dans un compte courant ou dans un compte qui n'est pas rémunéré? C'est une grosse question que je me pose. Et je ne suis pas sûr, au regard aujourd'hui de l'inflation, que je vais laisser mes liquidités dormante dans une épargne comme ça qui n'est pas rémunérée. Là, j'en suis pas vraiment très sûr parce que même si je dois de mon côté respecter une éthique religieuse qui réprouve et qui interdit tout rendement sur la base d'intérêt, mais qu'en est-il? Mais vraiment, je pose la question, qu'en est-il de l'inflation qui rogne aujourd'hui en fait si je ne fais rien de cette épargne? Mes liquidités. Maintenant, l'autre défi, c'est pour protéger sa famille, pour protéger ses biens. Parlons de l'assurance. Aujourd'hui, de mémoire sur le marché, je ne connais aucune assurance, Takaful, aucune assurance alignée sur l'éthique musulmane. Donc, j'en connais pas. Pour assurer ma maison, pour assurer mon véhicule, pour m'assurer en fait, donc assurer mon patrimoine, j'en connais pas. Donc même si j'ai la volonté ou j'ai la conviction de vouloir faire une assurance Takaful, une assurance en lien avec l'éthique de la charia, il m'est impossible. Donc en conclusion, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, donc une banque islamique, c'est avant tout un système juridico légale qui y est mise en place et qui permet de déployer des infrastructures, que ce soit de télécommunications, des infrastructures en fait informatiques qui permettent en fait de réaliser des transactions de manière sécurisée. Or, aujourd'hui, tout notre système et toute notre infrastructure est basée sur la finance conventionnelle. Aujourd'hui, la finance islamique opère dans une niche, opère dans un petit coin, surtout en France, et ne permet pas de proposer pas tout ce qui se retrouve en fait dans un système financier conventionnel. Et n'en parlons pas aujourd'hui en termes de tarifs, parce que c'est là aussi en fait le nerf de la guerre, c'est que suis-je en mesure de trouver une tarification des prix qui m'assure aussi en fait un service équivalent. On peut aussi en tant qu'être humain avoir en fait cette approche là. Maintenant, quels sont les freins et les défis qui nous empêchent ou qui empêchent tout musulman de basculer dans une banque islamique? Eh ben, aujourd'hui, moi ce que je préconise en fait, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une approche différenciée. Donc au niveau du quotidien, donc si c'est juste pour avoir une carte, une appli, pouvoir payer avec une appli, pouvoir régler les transactions, on va dire dématérialisées, digitalisées, oui, on peut basculer dans une banque en fait islamique, il n'y a pas de frein particulier. En revanche, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en ce qui concerne les financements, en ce qui concerne les prêts bancaires, donc tout n'est pas simple, parce que les prêts immobiliers, c'est possible, mais réservé à une clientèle ayant vraiment préparé un projet, ayant vraiment mis de côté et ayant les capacités, donc ce n'est pas des solutions qui sont réservées à la moyenne. Au niveau de l'épargne, bien sûr, ce n'est pas possible, parce que cette approche-là, l'épargne aujourd'hui, il faut un certain ticket, il faut des certains montants pour rentrer, et il faut accéder à un certain niveau, on ne peut pas y rentrer comme ça. Zéro solution au niveau assurance, et le fait qu'on ne puisse pas en fait, ça, le fait que l'assurance constitue en fait un frein, c'est que on est exposé aux aléas. Donc, alors aujourd'hui, on voit il y a des catastrophes climatiques, des catastrophes naturelles, on a des inondations, on a des problèmes de vandalisme, on a du vol, on a des dégradations, on a des accidents, dommages, des collisions entre particuliers. Si je refuse de m'assurer aujourd'hui, non seulement je me retrouve aussi dans l'illégalité, parce qu'en France, certaines assurances comme la responsabilité au niveau habitation et la responsabilité civile au niveau véhicule, c'est obligatoire donc d'être assuré. Même l'exercice de certaines professions, il est obligatoire d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Donc, se pose un problème, on va dire, de légalité. Et je ne suis pas sûr que l'éthique religieuse approuverait un problème de légalité en disant « je me mets hors la loi pour pouvoir être conforme avec mon éthique religieuse ». Parce que tout simplement, après, ça se discute en fait à coup de jurisprudence. Il me semble que la loi nationale a une certaine primauté au regard de certaines lois religieuses. Donc en fait, il nous est demandé de nous conformer souvent aux lois nationales. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions de jurisprudence, mais il est important de ne pas se mettre en marge, parce qu'on peut aller en prison en fait. On peut être condamné à de lourdes peines, non seulement de prison, mais des peines financières. Donc aujourd'hui se pose aussi un problème moral. Est-ce que dans l'attente d'avoir une solution en matière d'assurance éthique, une assurance takaful, est-ce que je vais exposer mon patrimoine immobilier, exposer ma famille, est-ce que je vais ne pas avoir des garanties d'assurance, est-ce que je vais me dire au nom de la religion, j'expose ma famille, tout en sachant que la notion de vie prime sur le reste. Est-ce que je vais aujourd'hui, moi, me dire non, je ne m'assure pas parce que c'est pas conforme à mon éthique. Donc là, on est dans une notion de zarar, c'est-à-dire de nécessité. Donc se pose en fait aussi un problème philosophique qu'il faille trancher. Donc aujourd'hui, les défis donc de la banque islamique, c'est avant tout, c'est que même si on est plein de bonne volonté, on a envie d'essayer, on a envie d'avoir des produits accessibles, se pose la question de la démocratisation de ces produits, l'accessibilité. Est-ce que j'ai des assurances? Est-ce que aujourd'hui j'ai une banque proche, même à quelques kilomètres de chez moi, qui me propose de vraies alternatives, de changer? Se pose aussi la question de la créativité, parce que la finance conventionnelle, elle est créative, elle propose de nouveaux produits, elle propose des montages. Donc tout n'est pas bon ou tout n'est pas mauvais, mais ça permet par exemple de d'épouser en fait la marche du monde. Donc on se demande aujourd'hui, voilà, est-ce que et ça fait partie des défis de la finance islamique, c'est la création de nouveaux produits, parce que il faut que chaque nouveauté épouse bien sûr l'éthique et que ça soit charia compatible. Et maintenant, on a toujours en fait vu qu'on nous sommes sur une nouvelle finance éthique ou une finance en fait en cours de démocratisation, nous avons aujourd'hui un temps de retard. Le temps que la solution soit adaptée, soit répliquée, on a toujours en fait un temps de retard. Donc en tant que musulman, sur des problématiques du quotidien. Je ne parle pas aujourd'hui du fait d'avoir un gros capital et d'investir dans des sociétés charia compatibles ou compatibles avec l'éthique musulmane. Je parle aujourd'hui de messieurs et madame tout le monde. Ce qui nous amène à la question, quelle attitude adopter en tant que musulman vis-à-vis de la banque conventionnelle ou vis-à-vis du fait qu'on souhaiterait adopter une démarche éthique compatible avec la banque islamique? Eh bien, je pense qu'il faut aujourd'hui se fixer un terme ou se fixer des délais pour basculer. Il ne faut pas être rigide sur la question, parce que j'en vois beaucoup qui me disent « dans le doute, je ne fais rien ». Moi, je trouve que c'est très dangereux. Parce que si on est aussi binaire, on est aussi catégorique, radical sur la question, j'ai envie de demander « est-ce que tu es prêt d'aller jusqu'au bout de la logique ?» C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de voir juste le système bancaire, la banque islamique, les moyens de paiement, est-ce que tu es prêt à remettre en cause tout ton système, tous tes systèmes de vie, ton métier, tes relations, ton environnement, tout, pour que ça soit financièrement ou que ça soit compatible avec la charia? Parce que le fait de vouloir ne rien faire et attendre, ça suppose en fait qu'on aille jusqu'au bout en fait de la logique. Mais si on se dit je vais me fixer un terme, je vais basculer au fur et à mesure que je trouve l'équivalent, moi je suis plutôt partisan de cette attitude de transformer les choses, d'y aller petit à petit et de ne pas se freiner et de ne rien faire. Maintenant la question, que faire au regard des autres? Parce que on a aussi souvent le regard des autres où on a peur de quelqu'un de la famille, d'un oncle, d'une tante, d'un cousin, d'une cousine, d'un frère ou d'une sœur. Que faire au regard des autres? Je pense qu'il faut déculpabiliser parce que nous sommes tout de même en 2024 et ce qu'on doit d'abord en fait avoir comme attitude, il faut déculpabiliser les choses, il faut dépassionner le débat et avoir une approche pragmatique, parce que même l'islam en fait a été révélé, mais il y a eu un temps de révélation jusqu'à ce que le message en fait soit complet, et donc il faut faire preuve de réalisme et se dire je vais à la recherche des informations et des produits qui me permettent de faire cette transformation, et je vais le faire dans la progressivité. Je ne peux pas du jour au lendemain être vertueux sur la question. Donc, c'est faire preuve de réalisme, parce qu'il y a certaines choses qui ont été bâties pendant des années et que on ne peut pas en un claquement de doigts comme ça. Donc, en fait, se radicaliser et avoir une approche radicale. Donc là, sur la question, ce n'est pas le regard des autres qui est important, c'est notre aptitude à aller chercher l'information, à aller trouver des solutions et à switcher quand c'est, vous jugez que c'est le bon moment. Donc ça, c'est vraiment la question. Donc en fait, la solution plutôt à apporter. Maintenant, concrètement, comment agir? Eh bien, comment agir? Là, sur cette question-là, je vais plutôt vous parler de mon point de vue personnel. J'ai pris tardivement conscience de l'existence, en fait, de la finance islamique. C'est quelque chose qui m'est apparu de façon très tardive. Et pour être tout à fait honnête, ça date d'au moins de 10 ans. Maintenant, j'ai analysé le marché, et j'ai analysé les choses dans la vie, et je suis tout à fait d'accord, et je me suis rendu compte que dans le pays auquel je vis en ce moment, c'est la France, je n'ai pas une infrastructure et je n'ai pas un système bancaire qui est adapté. Ce n'est qu'en 2008 où, sous l'égide de Christine Lagarde, il y a eu un projet avec des sénateurs, il y a eu une adaptation de la législation française sur une toute petite partie pour commencer et initier la France à la finance islamique. Et on sait très bien qu'en matière bancaire, on est dépendant de solutions nationales, de solutions locales. Donc aujourd'hui, je n'ai pas une infrastructure et je n'ai pas un système bancaire adapté. Et je n'ai pas de gros tickets me permettant, moi, d'expatrier en fait mes actifs, de me choisir en fait une résidence fiscale dans un pays hors de la France qui me permette en fait de bénéficier. Je n'ai pas les moyens d'être un exilé aux Émirats ou en Malaisie. Donc je suis tenu de composer avec le système actuel pour faire vivre ma famille, pour réaliser de projets de vie et tout en gardant en moi en fait cette éthique-là. Donc aujourd'hui, j'épargne et je vous le cache pas que dans mon épargne, ce qui m'anime dans mon épargne, c'est pas tant de démultiplier mes gains, mais ce qui m'anime aujourd'hui dans mon épargne, c'est avant tout de pouvoir préserver mes liquidités de l'inflation. Faut pas que mes 1000 euros deviennent de 900 euros demain parce que j'ai laissé ça sur un compte dormant. Donc, mon épargne, je fais en sorte d'investir pour que demain, donc dans des titres, que j'ai plutôt une approche de moins pire, dans des titres qui me permettent que demain, si j'ai besoin d'argent, je peux les vendre et retirer des liquidités. Au niveau des investissements, je compose aussi avec un certain réalisme du terrain. J'ai jugé et j'ai trouvé que pour moi, un loyer en tant que locataire, me revenait beaucoup plus cher que si je contracte en fait un prêt immobilier. Donc, j'ai fait le choix en me disant que pour le moment, je suis tenu de me loger ou de loger ma famille et j'ai fait ce choix-là, donc en fait de contracter en fait un prêt immobilier parce que cela est devenu en fait une nécessité et parce que en l'absence en fait de réelles alternatives et de réelles solutions en face. Je vis ici, je ne vis pas aux Émirats, je ne vis pas en Malaisie, où je pouvais avoir des offres alternatives. Maintenant, quand j'ai des besoins de changer de véhicule, j'ai des besoins d'avoir en fait une nouvelle cuisine ou des petits projets, des petits travaux, même en étant très vertueux, des fois je n'ai pas forcément la somme parce que la famille s'agrandit, les besoins croissent aussi. J'ai besoin d'avoir des facilités, des paiements fractionnés. J'ai besoin aussi de pouvoir emprunter pour faire ces choses-là. Mais faute aussi d'acteurs en face, parce que malheureusement, je peux pas aller à Dubaï faire un prêt en étant ici. Donc, je suis obligé aussi de faire cela, d'emprunter. Oui, avec un taux d'intérêt. Donc, j'ai l'inflation, j'ai les taux d'intérêt ici. Bon, je suis obligé de composer. Je fais une composition pour le faire. Par exemple, j'ai un véhicule. Je suis non seulement obligé, mais je suis tenu de l'assurer. Je l'assure parce que demain, si on vole ma voiture, je ne dispose pas suffisamment de cash pour aller acheter une nouvelle voiture et travailler. Donc, je suis tenu aussi de composer avec un environnement qui n'est pas forcément l'environnement à 100% compatible. Donc, sur plein de questions de la vie, je sais faire la différence entre ceux qui cherchent à spéculer, ceux qui cherchent à démultiplier sans raison leur épargne. Je ne pense pas qu'avec les moyens dont je dispose, je ne suis pas en train de thésauriser, je suis juste en train de faire en sorte que tout puisse fonctionner de mon vivant et que s'il m'arrive un aléa de la vie, que ça puisse continuer en fait à fonctionner. Et que si la possibilité ou l'opportunité se présente pour transformer un produit qui n'est pas charia compatible avec un produit qui l'est, je le ferai sans hésitation. Je le ferai sans hésitation, mais je refuse aujourd'hui par des questions dogmatiques, par des gens qui me disent il faut rien faire. Mais en même temps, on n'est pas dans un monde où on peut se permettre de ne rien faire. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours agir. Donc, je suis tenu, moi, aujourd'hui, de me transformer, de m'adapter, de faire preuve de réalisme, de pragmatisme. Donc, peut-être que je suis totalement en dehors des clous sur le plan de l'éthique, mais j'invite, en fait, à ceux qui m'écoutent et à chacun, parce que, attention, ce que je dis ne vaut pas, ne vaut conseil pour personne. Donc, c'est peut-être un épisode beaucoup plus personnel parce que je prends rarement la parole, mais j'ai tenu à livrer un petit peu ma version des choses au regard de ce que je sais, de ce que je connais. Maintenant, le débat est ouvert. Il y a toujours quelqu'un de plus savant, de plus sachant qui peut corriger, qui peut m'apprendre, qui peut m'apporter quelque chose, mais je tenais absolument, en fait, à vous livrer ma part à moi, et tout en disant que ma part à moi, peut-être que dans 5 ans, je pourrais revenir et vous dire, bon voilà, ou dans 2 ans, dans 1 an, que les choses ont évolué. Voilà. L'épisode permet aussi donc de répondre à des questions. Il y a un petit quiz, un petit questionnaire qui est mis en ligne. N'oubliez pas également d'aller écouter l'épisode comparatif. Je compare une banque conventionnelle avec une banque islamique. Et l'épisode de début qui dit argent, finance islamique et moi. Donc, et bien d'autres épisodes qui vous permettront sans doute de répondre à un certain nombre de vos questions. Tout le plaisir a été pour moi et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sous, Gros Sous. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles, au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt, n'oublie pas, petit sous aujourd'hui, gros sous demain.